J'aimerais parler ce matin de oublier ce qui est en arrière. Dans Philippiens chapitre 3, verset 12, il est écrit: Ce n'est pas que j'aie remporté le prix ou que j'aie atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je ne m'estime pas moi-même être déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous connaissons tous des temps de déception, de souffrance dans notre vie et peut-être des choses qui se sont mal passées il y a bien des années en arrière et puis qui sont là comme des boulets que nous traînons avec vous, que nous traînons avec nous tout au long de notre existence, mais on a besoin de nous en décharger et d'abandonner toutes ces choses, d'oublier ce qui est en arrière et de nous tourner vers ce qui est en avant et de courir vers le but. Ça peut remonter dès l'enfance, des blessures qu'on a eues, des souffrances. On s'est peut-être moqué de vous. Je me rappelle, quand j'étais enfant, mes parents m'avaient acheté un joli ensemble, mais c'est un ensemble blanc avec des pois bleus, des gros pois bleus. Et donc, je devais avoir 6 ans, et mes parents m'avaient imposé de mettre cet ensemble blanc à pois bleus. Et moi, c'était une vraie souffrance, parce que ça manquait pas de. À l'école, mais ils se moquaient de moi. Ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Alors, un jour, pour me venger, alors que j'avais été mis dans le couloir, c'était certainement que j'avais été turbulent dans la classe. Depuis, je me suis converti, merci Seigneur. J'avais été turbulent et pour me venger, j'avais fouillé les poches de mes copains et j'avais trouvé un bocal de cacahuètes. Et j'ai mangé toutes les cacahuètes pendant ce temps et je me suis vengé. Mais peu de temps après, quelqu'un s'est vengé sur moi. Parce qu'on m'avait acheté un beau vélo tout neuf. Et puis un jour, alors que j'étais à la boulangerie, j'avais laissé mon vélo devant la boulangerie. Et quand je reviens, il n'y avait plus de vélo. On m'avait volé mon vélo. Alors j'étais complètement désemparé. Et puis je retourne à la maison. Je dis, papa, maman, on m'a volé mon vélo. Je retourne à la boulangerie. Eh bien, c'était les copains qui m'avaient fait une blague. Et moi, ça m'avait complètement mis par terre parce qu'on m'avait volé mon vélo. Mais en réalité, ils l'avaient caché. Et après, ils l'ont ressenti. Alors, vous voyez, tout ça, c'est les blessures, les souffrances, l'accumulation de tout ce qu'on a pu faire aux autres et ce que les autres nous ont fait aussi, parce qu'on a pu faire souffrir, mais on a aussi souffert. Et puis, ça va jusque dans le monde du travail, quand on vous a traité d'incapable, que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez, ne correspondiez pas au poste, qu'on n'avait plus besoin de vous. Que vous étiez trop âgé, que vous étiez trop jeune, que cela ne correspondait pas. Et tout cela fait que nous vivons des fois le présent avec les problèmes du passé constamment à notre esprit. Mais Paul nous dit, oubliez ce qui est en arrière et portez-vous vers ce qui est en avant, courez vers le but. J'ai un autre verset de Paul dans 2 Corinthiens qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ne vivons pas dans le passé, frères et sœurs. Ne vivons pas dans les souffrances passées. Peut-être on vous a fait du mal, peut-être qu'il y a 10 ans, on vous a fait une mauvaise affaire, vous avez été victime. Et si constamment on revient sur ces choses et qu'on souffre et qu'on revit la situation comme si ça s'était produit hier et qu'on n'arrive pas à le dépasser, eh bien ça va être pour nous comme un boulet. Et Paul dit, on ne pourra pas courir. Si on n'oublie pas ce qui est en arrière, si on n'arrive pas à tourner la page, à pardonner, à oublier, eh bien, on n'arrivera pas à faire la suite du verset qui dit, portez-vous en avant et courez vers le but. Parce qu'on peut courir. En moyenne, si on court, on fait un marathon, on va courir sur 10 km, en moyenne, on fait à peu près du 10 km heure. Mais si on a un sac à dos de 50 kilos sur le dos, on ne pourra pas courir. Si on est chargé, on pourra peut-être marcher, on pourra avancer, mais on ne pourra pas courir vers le but. Et c'est ce que Paul nous dit. Il nous dit, pour courir, vous devez d'abord vous décharger de tout ce qui est en arrière, de tout ce passé peut-être que vous vivez au présent et qui vous fait souffrir. Alors j'ai trouvé quelques exemples dans la parole, notamment chez Paul, puisque c'est lui qui en parle le premier, lorsqu'il dit « oubliez ce qui est en arrière ». Et quand on regarde la vie de Paul, on se rend compte qu'elle n'a pas été tous les jours très facile. Il a connu de la part des Juifs des persécutions quand il s'est converti, et puis de la part des non-Juifs, il a été battu, il a été emprisonné, il a été maltraité, et même quand il a rencontré des chrétiens, ce sont peut-être les chrétiens qui lui ont fait le plus souffrir. Dans Galates chapitre 5, verset 15, il dit ceci, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres », alors Paul s'adresse ici à des chrétiens, les chrétiens de Galatie, il dit « Si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Alors, il fait référence à quoi ? Il fait référence à des croyants qui se mordent les uns les autres, et peut-être lui-même avait reçu quelques morsures, et peut-être nous aussi, nous avons reçu aussi quelques morsures, et cela nous a fait beaucoup de mal, parce que les chrétiens sont un petit peu des êtres hybrides, ils ont le pelage, la douceur de la brebis, et d'un côté, ils ont les dents du piranha, et du piranhas, et ils peuvent mordre si on s'approche trop près. Alors souvent, on a des blessures très profondes, et je crois que c'est vrai que les blessures les plus profondes, elles viennent de notre propre famille. Et on l'a dit tout à l'heure en introduction, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs, et cela nous fait toujours plus mal quand on est blessé par les gens de notre propre famille que si c'est par quelqu'un de l'autre bout du monde. Mais si c'est notre famille, ceux qui sont avec nous, ceux qui nous connaissent, avec qui on partage, avec qui on a une communion spirituelle, alors la souffrance est comme décuplée. Aussi bien notre vision de l'Église est élevée, et nous croyons que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu, que nous sommes, nous, des pierres vivantes qui avons été rachetées, nous avons été rassemblés de toute race, de toute tribu, nous formons l'Église, et nous sommes maintenant frères et sœurs dans la foi. Autant nous avons une belle vision de l'Église, autant quand nous allons être déçus d'un frère, déçus d'une sœur, déçus d'un chrétien, eh bien, nous allons tomber bien bas parce que nous avions tellement placé haut dans notre estime l'Église. Et ça nous apprend aussi à prier les uns pour les autres, à nous comprendre les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres. Alors, j'ai regardé un peu la vie de Paul. D'abord, il a été mal jugé. Et ça, il a fallu qu'il le surmonte. C'était des souffrances. Parce que quand il s'est converti, il était juif d'origine et personne ne croyait dans sa conversion. Et lorsqu'on a voulu l'amener auprès des apôtres, les apôtres ne voulaient pas le recevoir parce qu'ils pensaient qu'il n'était pas un vrai chrétien. Et cela, c'est une souffrance quand vous êtes né de nouveau, vous appartenez à l'Église et que vous êtes jugé. On vous juge sur votre passé, on vous juge sur les choses que vous aviez faites avant. Et qu'est-ce qu'avait fait Paul avant ? Il avait persécuté l'Église, il avait tué des chrétiens, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il était donc vraiment quelqu'un d'éloigné de Dieu. Mais ça, c'était avant. On l'a dit, les choses anciennes sont passées. On oublie ce qui est en arrière. Maintenant, on se porte vers ce qui est en avant. Alors, Paul avait bien fait cette démarche de suivre le Seigneur, d'oublier ce qui est en arrière. Les choses anciennes sont passées, mais les apôtres ont eu beaucoup de mal. Et il a fallu du temps, il a fallu Barnabas qui vienne réconcilier Paul avec les apôtres. Et tout cela, bien sûr, s'est fait progressivement. Et puis, un peu plus tard, il a eu des désaccords, il a eu des profonds dissentiments. C'est écrit dans Actes 15 et au verset 39, il a eu un désaccord avec Barnabas. C'était son ami, celui qu'il avait amené auprès des apôtres, avec qui il avait fait un premier voyage missionnaire qui s'était très bien passé. Et ils envisagent de faire un deuxième voyage missionnaire. Et Barnabas propose de prendre Jean, surnommé Marc, avec eux pour ce voyage. Et c'est là qu'il y a eu un dissentiment, dit la parole de Dieu, un dissentiment assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et ça, immanquablement, ça a créé des blessures. Des blessures déjà pour Jean, surnommé Marc, puisque lui n'a pas été agréé de Paul, il en a été affecté. Et puis la blessure parce que l'équipe qui était soudée, qui était unie maintenant, était brisée. C'était Barnabas et Saul qui avaient fait de si grands exploits, qui étaient des instruments de Dieu magnifiques. C'était une belle équipe. Elle était brisée et cela a généré eh bien, des souffrances dans le cœur de Barnabas. Il a rebondi, il est parti avec Jean-Marc et ils sont allés d'un autre côté. Mais néanmoins, tout cela eh bien, crée des souffrances. Alors Paul aurait pu en vouloir à Barnabas d'être parti avec Jean-Marc. Il aurait pu en vouloir. Il aurait pu avoir de l'amertume dans son cœur. Mais la Bible nous dit qu'il a réussi à tourner la page. Et un peu plus tard, il dit que finalement, Jean-Marc est utile pour le ministère. Il le dit dans une de ses épîtres. Et il a bien vu la main de Dieu dans cette affaire, alors qu'il avait jugé sévèrement dès le début. Alors, il a eu des désaccords. Il a aussi été critiqué. On est un petit peu étonné quand on lit l'épître aux Corinthiens. C'est dans 2 Corinthiens 10, 10. Comment les gens parlaient méchamment, sévèrement de l'apôtre Paul. Et ça, cela fait beaucoup souffrir. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Et là, il parle de l'apôtre Paul. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Ce n'est pas une manière très gentille de parler du serviteur de Dieu. Il est faible et sa parole est méprisable. Quel méchant propos. Voilà le genre de propos donc, qui circulait dans l'église de Corinthe. C'était des croyants qui parlaient comme ça. C'était des chrétiens et pourtant ils aimaient Dieu, ils aimaient le Seigneur. Mais néanmoins, ils parlaient à tort et à travers et ils disaient du mal de l'apôtre Paul. Alors Paul n'était même pas présent, il ne pouvait pas se défendre, il ne pouvait pas se justifier, il était à des kilomètres et des kilomètres. Alors il envoie une lettre pour expliquer les choses. Mais combien souvent nous vivons ces situations ? Des gens peut-être disent du mal de vous derrière votre dos, vous ne le savez pas, vous ne pouvez rien faire et des rumeurs commencent à circuler. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul et il en a beaucoup souffert. Et puis, tout un pan de l'épître aux Thessaloniciens vers... À partir du chapitre 4, verset 10, Paul va répandre son cœur. C'est assez rare que Paul parle de ses sentiments dans ses épîtres. Il parle beaucoup de Jésus, de la gloire de Dieu, de l'œuvre de Dieu, d'une manière tout à fait générale et aussi spirituelle, très, très profond texte. Mais rarement, il parle des sentiments de son cœur. Et dans cet épître, à un moment donné, à la fin, il va raconter ses souffrances. Et il va parler notamment de Démas, son compagnon d'œuvre qui l'a accompagné jusque dans les moments les plus difficiles. Quand il était attaché, quand il était en prison, Démas était un soutien pour lui. Mais Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il va parler d'Alexandre le forgeron, dont il dit qu'il lui a fait beaucoup de mal. J'ai relevé la parole vivante. Il m'a témoigné beaucoup de malveillance. Qui était cet Alexandre ? C'était un croyant, mais qui avait fait naufrage quant à la foi. Et il disait du mal, et il faisait du mal à l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il s'opposait violemment à ses paroles. Alors, nous avons là un homme qui est attaqué, un homme qui est blessé, et puis, alors qu'il est en train d'être jugé, hein, on sait que ce quatrième voyage, le dernier, c'était pour aller devant l'empereur à Rome, et lorsqu'il s'est retrouvé convoqué devant le tribunal, il écrit, c'est au verset 16, « La première fois que j'ai eu à me présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Nul n'a pris parti pour moi. Au contraire, tous m'ont abandonné. » Alors, avec tout ce qu'il a vécu, l'abandon de Démas, les souffrances qu'il a eues avec Alexandre le forgeron, tous ses amis qui l'ont abandonné, on peut comprendre qu'il ait dans son cœur une souffrance. Et puis, ça aurait pu générer de l'amertume, du ressentiment à l'égard de ces personnes qui lui ont fait tant de mal, qui l'ont fait tant souffrir, après tout, c'était injuste. Lui, il a fait le bien et on lui a rendu du mal. Et souvent, ce sera comme ça, frères et sœurs. Nous faisons du bien et on nous rend du mal. Alors, ce n'est pas qu'il l'a cherché, mais c'est des choses qu'il a vécues. Et comment s'en est-il sorti ? Eh bien, dans la suite du verset, le verset 16, il dit, donc 2 Timothée 4, 16, il dit « Que cela ne leur soit point imputé. » C'est-à-dire, « Père, pardonne-leur, comme a dit Jésus, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » On retrouve la même prière que Jésus a faite lorsqu'il était sur la croix, qu'il était injustement crucifié, mais c'était pour le salut du monde. Eh bien, Jésus a demandé que Dieu pardonne tous ses bourreaux. Eh bien, Paul avait la même attitude, c'est-à-dire oublier ce qui est en arrière, se porter vers ce qui est en avant, je cours vers le but. « Seigneur, pardonne-leur leur péché, pardonne-leur le mal qu'ils ont fait, que ce péché ne leur soit point imputé. » Et ensuite, il dit, mais c'est le Seigneur qui m'a relevé, c'est le Seigneur qui m'a assisté, il m'a délivré de la gueule des lions. Alors, frères et sœurs, tout ça, ce sont pour nous des illustrations, des exemples. Quand nous sommes dans les mêmes situations, qu'on a été abandonné, qu'on nous a fait du mal, eh bien, nous pouvons tourner la page, oublier ce qui est en arrière, nous porter vers ce qui est en avant, prier pour la situation, la remettre à Dieu en quelque sorte en disant « Seigneur, prends la situation en main, je ne peux rien faire, mais toi tu peux incliner les cœurs et changer cette situation pour ta gloire. » Et nous croyons que Dieu peut le faire et qu'il est avec nous dans ces combats-là. Amen. Deuxième exemple que nous trouvons dans l'Ancien Testament, celui-ci, c'est Abraham. Abraham qui est parti pour le pays de la promesse. On sait qu'il est parti avec Térakh, que Térakh est resté à Charan, qu'il n'a pas abouti jusqu'au pays de Canaan. Mais Lot, lui, a poursuivi jusqu'au bout et il est arrivé en Canaan. Lot, c'était donc le neveu d'Abraham. On pourrait dire que Lot suivait Abraham. Mais ça s'arrêtait en gros là, parce que jamais on ne voit Lot bâtir un autel à l'Éternel, jamais on ne voit Lot prier, jamais on ne voit Lot en communion avec Dieu. Mais néanmoins, il bénéficiait de la couverture spirituelle d'Abraham et il suivait le mouvement et puis il était dans la bénédiction d'Abraham jusqu'à un certain jour toutefois. On trouve ça dans Genèse chapitre 13, lorsque les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se sont querellés pour un problème d'espace. Il n'y avait plus assez d'espace pour tous les bergers et il fallait qu'ils se séparent. À partir de cette querelle, Abraham a laissé le choix à son neveu. Il lui a dit, prends ta décision. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis toi-même ton emplacement. C'était normalement à Lot de laisser Abraham choisir. Mais voyez qu'il n'avait pas cet état d'esprit. Il était un neveu peut-être assez égoïste, qui aimait les choses de cette terre plus que les choses de Dieu. Et il a sauté sur l'occasion au lieu de dire à Abraham, non, Abraham, par respect pour toi, c'est toi d'abord qui dois choisir. Toi, tu es l'aîné, toi, tu es le patriarche. Toi, tu es celui qui m'a amené jusqu'ici, choisis et moi, je prendrai ce qui reste. Non, il a dit, oui, je vais choisir, et c'est au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent, donc Abraham d'un côté, Lot de l'autre. Quand il voyait cette plaine du Jourdain, on dirait qu'il ne voyait pas Sodome et Gomorre qui étaient des villes abominables aux yeux de l'Éternel, c'est comme si ça, il ne le voyait pas, mais il voyait un jardin de l'Éternel, un jardin de délices. Il voyait comme le paradis sur terre, alors que c'était des villes de péché. C'est même précisé dans la Bible que ces villes étaient en abomination aux yeux de l'Éternel, qu'il y avait de grands péchés qui y étaient commis. Alors, voyez, quand on ne prie pas, quand on ne prend pas à cœur la parole de Dieu, immanquablement, on va faire des choix qui nous semblent les plus judicieux, mais qui vont être pour nous des occasions de chute. Et si vous lisez la suite du récit, vous voyez que dans cette ville, ça a été la catastrophe pour Lot et pour toute sa famille. Tout ça parce qu'il a préféré suivre son instinct, ses yeux, cette ville qui lui parlait, eh bien, il s'est retrouvé dans Sodome et Gomorre. Alors qu'il était là tranquille à Sodome et Gomorre, la Bible nous dit que des ennemis ont envahi la ville et ont enlevé Lot et sa famille avec plusieurs habitants et ils se sont retrouvés captifs. C'est bien la preuve que quand on fait des choix insensés, on se retrouve dans des problèmes. Il s'est retrouvé dans des difficultés parce qu'il n'a pas écouté Dieu, parce qu'il a fait ce qu'il voulait, sans avoir rien à faire avec Dieu. Et lorsqu'Abraham a été au courant de cette affaire, il aurait pu dire, ben voilà, il n'a pas écouté, il a fait ce qu'il a voulu. Maintenant, il mérite bien d'être dans cette situation. Maintenant, il n'avait qu'à écouter Dieu. Et Abraham n'a pas réagi de cette manière. Parce qu'en quelque sorte, Abraham avait, c'est comme si on lui avait usurpé son autorité à un moment donné. C'est comme si Lot avait décidé à la place d'Abraham. Et il aurait pu se dire, ben, je vais en profiter pour me venger. Il aurait pu être amer. Il aurait pu laisser son neveu dans sa situation. Et non. Parce qu'Abraham était comme Paul, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Lot, c'est quelqu'un de sa famille. Lot, c'est un neveu. C'est quelqu'un qu'il voulait aider. Et Abraham, dès qu'il a été informé de la situation de péril de Lot, il a rassemblé une armée de 318 des plus braves guerriers et ils sont allés récupérer Lot et sa famille et tous ceux qui étaient prisonniers. Et la Bible dit que l'Éternel était avec Abraham et Abraham fut vainqueur dans cette situation parce que Dieu était avec lui. Alors Abraham a compris ce principe. C'est que nous devons oublier ce qui est en arrière. Quelqu'un nous a fait du mal, quelqu'un nous a trompés, quelqu'un a tiré un meilleur profit, il ne nous a pas laissé la possibilité de choisir, il a choisi et il a pris la meilleure part du butin. Eh bien, nous devons apprendre, nous chrétiens, à tourner la page, à ne pas ruminer, à ne pas vouloir nous venger et vouloir récupérer la situation pour faire payer à l'autre. Parce qu'il y a un principe, c'est que si nous devenons amers, si nous voulons nous venger, c'est nous-mêmes que nous détruirons en premier et nous ne pourrons pas porter de fruits. Alors Abraham a fait le choix d'oublier. Abraham a fait le choix de tourner la page. Un jour, lorsque j'étais en déplacement dans une autre église, lors du repas de midi, entre les réunions du matin et de l'après-midi, il y a un chrétien qui nous avait reçus dans sa maison et qui m'a posé cette question. Il me dit, « Pasteur, quel est pour vous le pire moment dans votre ministère ?» Alors j'étais un peu étonné par la question et je ne m'y attendais pas. Et je réfléchissais, quel est le pire moment dans mon ministère ? Eh bien, au bout de quelques minutes, je n'arrivais pas à trouver. Mais quel est le pire moment dans mon ministère ? Eh bien, je ne savais pas. C'est comme si les choses... C'est comme si c'était effacé. Il y en a eu des pires moments. Il y a eu des moments difficiles, mais les choses sont oubliées. Les choses sont en arrière. Et merci Seigneur, maintenant nous nous portons de l'avant et nous courons vers le but. Alors, apprenons à oublier. Peut-être, personnellement, j'ai dû le faire inconsciemment parce que je ne m'en suis même pas rendu compte, mais nous pouvons oublier ce qui est en arrière. Parce que si on transporte avec nous toutes les souffrances qu'on a eues il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a 3 ans, il y a 10 ans, et qu'on les a constamment dans l'esprit, et qu'on en parle constamment, eh bien, nous créons autour de nous une atmosphère de souffrance, une atmosphère d'amertume, et cela ne peut attirer que des malédictions et des souffrances encore plus grandes. Mais si nous avons un climat de foi, si dans notre cœur nous entretenons la parole de Dieu, eh bien, ce qui est en arrière est oublié, et nous entretenons un esprit de louange et d'adoration envers le Seigneur, alors ça crée un climat d'amour, un climat de foi, un climat de bénédiction. Et c'est cela que nous devons transporter dans notre cœur. Un troisième exemple se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Il s'agit de Joseph. Joseph qui avait tout pour bien réussir dans la vie. Il était né dans une famille bénie. Son père et sa mère étaient croyants. Rachel était la bien-aimée de Jacob, c'était la femme préférée de Jacob. Et Jacob l'avait dotée d'une tunique tout à fait exceptionnelle, une tunique qu'on donne au roi habituellement, une tunique de plusieurs couleurs. Et à ce moment-là, Joseph avait environ 17 ans, il avait des songes, des visions de la part de Dieu extraordinaires. Donc on voit qu'il était béni, ce jeune, et qu'il y avait une grande destinée sur sa vie. Et quand il racontait ses songes extraordinaires, bien, c'était grandiose. Il parlait des gerbes, alors il disait, nous étions dans les champs, avec tous les frères dans les champs, nous lions des gerbes ensemble, et tout d'un coup, ma gerbe s'est tenue debout par rapport à vos gerbes qui étaient tous aplatis par terre, et vous vous êtes prosternés devant moi. Alors il parlait de ses frères qui étaient amenés un jour à reconnaître l'autorité de Joseph. Et puis, un autre songe qu'il a eu, c'était la lune, le soleil et 11 étoiles, ça faisait référence au père, à la mère et les 11 frères, qui se prosternait devant Joseph. Encore une fois, une vision, une destinée d'autorité. À partir du moment où il a eu ses rêves de Dieu, et ce n'était pas des rêves de son imagination, nous le comprenons, parce qu'on a tous, peut tous plus ou moins avoir des rêves, mais il y a aussi des songes, c'est-à-dire que Dieu nous révèle des choses au moyen des rêves. Et là, c'était des songes de Dieu, et nous croyons que cela venait de Dieu. Et nous sommes certains que Joseph était appelé à quelque chose de spécial et qu'il était vraiment béni. Et pourtant, néanmoins, à partir de ce moment, tout va aller à l'encontre de Joseph dans sa vie, tout va aller mal. Ses frères vont le prendre en haine, il va être vendu. D'abord, ils voulaient le tuer, mais heureusement, Judas est arrivé, il l'avait jeté dans une citerne et ils l'ont vendu à une caravane de Madianites qui partait pour l'Égypte. Il s'est retrouvé esclave, lui qui était l'enfant préféré dans la maison de son père. Il s'est retrouvé esclave dans un pays étranger. Là-bas, il a été calomnié par la femme de Potiphar, comme quoi il avait tenté d'abuser d'elle. Et puis enfin, alors qu'il avait aidé l'ordonnateur des vins à sortir de la prison, et il lui avait dit « Souviens-toi de moi quand tu seras auprès de Pharaon », et bien la Bible dit que l'ordonnateur des vins oublia Joseph dans la prison et il était complètement sans ressources. Il n'avait pas eu de procès équitable, il ne pouvait pas se défendre. Donc, une situation qui allait de mal en pire dans sa vie. Et à ce moment-là, si on se met à la place de Joseph, on a beau avoir des belles révélations, des belles pensées de la part de Dieu, des encouragements, eh bien, notre cœur est humain et il y aurait de quoi chanceler, il y aurait de quoi, avec tous ces déboires, se dire, ben, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Il me montre des choses et je vis tout le contraire de ce que Dieu me montre. Alors, il aurait pu se convaincre lui-même qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, qu'il est un raté, que ses parents ne l'ont pas considéré, que ses frères l'ont méprisé, que personne ne croit en lui, que Dieu lui-même ne s'occupe plus de lui, et il aurait pu avoir ces pensées de doute, de découragement, peut-être la dépression, peut-être il aurait pu faire naufrage par rapport à la foi, comme on l'a dit d'un croyant tout à l'heure, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a été gardé dans cette épreuve, il a été gardé dans la main de Dieu d'une manière tout à fait surnaturelle, et on voit que quand tout est contre nous, quand tous les événements sont contre nous, eh bien Dieu nous garde dans sa main puissante. On l'a chanté tout à l'heure, même si les océans se déchaînent, même si tout semble s'effondrer, alors la grâce de Dieu nous accompagne. Il traverse en fait le Seigneur, il traverse avec nous ces épreuves. Et on peut être certain que Dieu était avec Joseph dans cette épreuve. Il ne le savait pas, mais à chaque étape de sa vie, en fait, Dieu était avec lui et Dieu préparait ses éléments pour le jour où Joseph serait au premier rang au niveau de la gouvernance de l'Égypte. En fait, il est tombé bien bas parce qu'il était appelé à aller bien haut. Et c'est souvent proportionnel, frères et sœurs, c'est que plus nous allons tomber bien bas parce que Dieu l'a permis par certaines circonstances, parce qu'on a beaucoup souffert par certaines circonstances, eh bien c'est parce qu'il a un projet pour nous d'aller à un certain niveau que nous ne pourrons pas apprécier ou gérer si nous n'avons pas eu cette préparation spirituelle. Amen. Vous voyez, c'est un petit peu comme le lance-pierre. Un lance-pierre, plus vous allez tirer en arrière, donc ça va générer une tension, l'élastique va être sur le point de se rompre, plus il va être dans cette tension, plus la pierre va aller loin. Eh bien, c'est un peu un principe spirituel, plus les difficultés vont l'humilier, plus il va être dans des situations difficile et plus en fait il est préparé à un avenir glorieux. Alors il ne l'a pas choisi et bien sûr frères et sœurs, nous n'allons pas nous jeter dans les épreuves par espoir que Dieu nous utilise d'une certaine manière. Ce n'était pas cette attitude qu'il avait. Mais néanmoins nous sommes comme Joseph et Dieu utilise les difficultés que nous traversons pour quelque chose que nous ne comprenons pas aujourd'hui mais qui se manifestera en son temps. Plusieurs fois, nous voyons dans l'Écriture que nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école de la souffrance, nous sommes à l'école de l'obéissance, nous sommes à l'école de la foi et nous apprenons des choses. Mais quand nous étions à l'école, nous-mêmes, ce n'est pas nous qui disions au professeur quel devait être le programme pour l'année. Ce n'est pas nous qui disions « Ah ben moi j'aime bien faire les additions, alors je vais m'en rester aux additions ». Non, le professeur avait en vue les multiplications, il fallait passer par les multiplications. Et derrière, il y avait d'autres paramètres encore avec des coefficients et des choses encore plus complexes. Mais nous ne pourrons pas atteindre les choses les plus difficiles si nous restons aux additions, si nous restons à ce que nous connaissons le mieux et si nous nous complaisons dans les choses les plus élémentaires. Mais notre maître à nous, c'est Dieu. Et il nous permet de passer par des stages de formation, un petit peu comme Joseph, parce qu'il est notre professeur. Et ainsi, il nous prépare au moment où nous serons en position eh bien, d'avoir l'exercice de tout ce que nous avons appris dans le passé qui va nous être utile maintenant pour pouvoir travailler. Alors lorsque Joseph s'est retrouvé à la tête de les Juifs quelques années après, ça aurait été facile pour lui maintenant d'en finir avec ses frères et de se venger parce qu'il avait souffert, parce qu'il avait été rejeté. Et là, il suffisait d'un mot et tous ils étaient en prison, tous ils étaient tués. Lorsqu'ils sont venus demander du blé, eh bien, il a eu pitié, il a eu compassion. Pourquoi ? parce qu'il a oublié ce qui est en arrière, il a oublié le mal qu'on lui a fait, il a pardonné et il est parti de l'avant. La Bible dit dans Genèse 45, verset 14, c'est un vrai pardon. Joseph se jeta au cou de Benjamin, c'était son frère cadet. Son frère pleura et Benjamin pleura à son cou. Verset 15, il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Et nous avons là le récit d'un véritable pardon entre Joseph et ses frères, alors qu'il avait le pouvoir de les exterminer, de se venger, de leur faire payer tout le mal qu'il a fait. Eh bien, il a préféré pardonner, il a préféré tourner la page. Pourquoi ? Parce que si Joseph s'était vengé, il aurait été très malheureux, il se serait détruit lui-même, et certainement il n'aurait pas fait la volonté de Dieu, ça n'aurait pas plu à Dieu. Un dernier exemple, et je vais terminer avec un exemple négatif pour vous montrer si nous n'oublions pas ce qui se passe. C'est Achitophel. Achitophel, qui était un conseiller de David dans le deuxième livre de Samuel, son nom signifie « frère de la folie ». C'était un ami intime de David, on pourrait dire un conseiller, un des meilleurs conseillers de David, un ami sur lequel il pouvait se reposer. Il était intelligent, il avait une connaissance spirituelle. Il est même dit qu'Achitophel, quand on consultait cet homme, c'est comme si on consultait Dieu directement. Alors, vous vous rendez compte de l'importance de cet homme à la cour du roi. Il était vraiment le numéro un après le roi. Et quand Absalom s'est révolté contre son propre père David et qu'il a envahi Jérusalem, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est que cet Achitophel, qui était un grand ami de David, s'est retourné et a suivi la cause d'Absalom. Et il est devenu le conseiller d'Absalom. Et il a dit, autant j'ai servi David avec mes conseils, autant maintenant je vais te servir, toi Absalom, le nouveau roi, avec mes conseils. Pour David, ça a été dur, parce qu'il perdait un grand conseiller et il perdait un ami. Et David, évidemment, a fui. Et finalement, on connaît la suite du récit, c'est que Absalom a été tué et Achitophel, puisque son conseil n'a pas été écouté, eh bien, il s'est pendu. Il a mis fin à ses jours lui-même. Alors, comment expliquer un tel retournement de situation pour quelqu'un qui était si proche de David ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quand on étudie l'histoire et la vie d'Achitophel, on se rend compte que dans sa généalogie, il était le grand-père d'une certaine femme appelée Bathsheba. Et vous avez tous entendu parler de Bathsheba. Et nous savons comment David s'est uni à Bathsheba et a fait tuer son mari. L'enfant, le premier enfant, est mort. Et Achitophel a toujours gardé en mémoire ce que David avait fait. Et on sait que ce que David avait fait était mal. Et il en a développé une certaine haine, une certaine amertume. Et on sait que l'amertume, c'est comme un poison qui nous dévore de l'intérieur. Alors de l'extérieur, il était très très aimable et il faisait les choses pour David. Mais à l'intérieur, il n'a jamais pardonné. Et il vivait avec cette rancœur. Et il vivait avec cette haine. Et il a été tué de l'intérieur. Vous voyez, au Colorado, c'est les plus grands arbres du monde qui existent actuellement, qui font plus de 100 mètres de haut et 30 mètres de circonférence. Ce sont des géants. Et ils ont étudié quelques-uns qui étaient tombés subitement, alors qu'ils avaient traversé les tempêtes et la foudre. Ce sont des arbres qui peuvent vivre des millénaires. Ils étaient déjà présents du temps de Christophe Colomb. Ils avaient traversé des tempêtes et la foudre était tombée sur eux, toujours debout. Mais ils sont tombés du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, s'étaient infiltrés des minuscules coléoptères qui ont rongé. Alors ça a mis des années. Ils ont rongé le tronc de l'intérieur et il a fini par s'effondrer du jour au lendemain. Alors ça, c'est l'image des pensées que l'on n'abandonne pas, des choses qui sont en nous que l'on garde pour se venger, des choses qu'on n'a pas abandonnées à Dieu. J'entendais ce témoignage il y a quelque temps d'un pasteur qui a perdu son fils dans un accident de voiture. Et on lui a posé la question, mais comment faites-vous pour remonter la pente et pour vous en sortir après une situation aussi difficile, parce qu'ils étaient complètement effondrés, bien sûr. Eh bien, comment a-t-il réussi à s'en sortir ? Il a dit ceci, « Je fais une différence entre ce que je sais et ce que je ne comprends pas. Et il a dit, je sais que Dieu est bon et je sais que Dieu veut le meilleur sur nous, mais sur la terre, je ne comprendrai pas toutes les choses qui m'arrivent. Et je ne veux pas chercher à les comprendre. Si Dieu ne me les a pas révélées, je sais que je les comprendrai là-haut. C'est comme ça qu'il a réussi à surmonter, par la grâce de Dieu, cette épreuve. Alors nous ne devons pas chercher à comprendre toutes choses, parce qu'il y a des choses incompréhensibles. Et si Dieu ne nous a pas révélé, pourquoi ? Eh bien, ne cherchons pas à comprendre avec notre intelligence, parce que Jésus ne nous a pas demandé de comprendre toutes choses, mais il nous a demandé de croire et de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Paul dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais je connaîtrai comme il a été connu. » Alors, on voit d'une manière imparfaite, nous comprenons d'une manière imparfaite, mais viendra le jour où nous le verrons tel qu'il est. Tant que nous sommes sur cette terre, apprenons à oublier, apprenons à tourner la page. Dans le cas d'Achitophel, il n'a jamais voulu pardonner. Eh bien, ça a produit sa propre perte. Il s'est suicidé lui-même. Alors, terminons par la prière. En conclusion, je voulais simplement rappeler que l'oubli, oublier ce qui est en arrière, c'est un principe biblique que nous devons appliquer. Même Dieu lui-même, la Bible nous dit qu'il pratique l'oubli. Dans Michée chapitre 7, verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage et qui ne garde pas sa colère à toujours, mais qui prend plaisir à la miséricorde ?» Dieu lui-même oublie nos péchés passés. Alors nous devons apprendre à oublier. Nous devons apprendre à tourner la page et ne pas rester sur les souffrances d'hier, sur les difficultés. Jésus a dit « À chaque jour suffit sa peine ». Ne soyons pas trop chargés si nous accumulons. C'est vrai qu'une journée déjà c'est lourd, mais si nous accumulons plusieurs jours c'est très lourd. Et si vous accumulez 2, 3 ans, 4 ans, si vous n'avez pas déchargé, eh bien vous ne pourrez plus courir, vous ne pourrez plus avancer. Hier est passé, aujourd'hui est un jour nouveau. David dit au psaume 118, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » C'est une nouvelle journée que Dieu nous donne, que Dieu soit béni.